Vous écoutez, on lit pour vous.
Louis Morissette, casser l'image du gars frondeur. Un texte de Michel Lemieux paru le 14 février 2024 dans le magazine Virage. La maturité s'amène toujours avec quelques cadeaux sous le bras. La cinquantaine, associée à quelques ennuis de santé, ont convaincu Louis Morissette de faire les choses pour lui et de se détacher du regard des autres. Inspiré par ses réflexions, l'humoriste présente « Sous pression », son premier spectacle solo en carrière. « Je suis encore en train d'assimiler ce qui m'arrive », raconte Louis Morissette au sujet de la cinquantaine. « Dans ma tête, je suis tellement un petit gars que je n'en reviens pas d'avoir 50 ans. Suis-je déjà rendu là? C'est fou. Comme j'ai de grands enfants, je me dis que ça doit être vrai. J'ai 50 ans. » Candidement, il avoue ne pas aimer vieillir. Mais comme personne n'est éternel, autant s'efforcer de vivre ça positivement. Ça m'a angoissé par le passé, mais j'ai réalisé que ça ne donnait rien. Après tout, on ne sait jamais quand tout peut s'arrêter. Les affaires tripantes ne viendront pas des autres, elles vont venir de moi, alors je compte les provoquer. Seul sur scène. Ainsi, après presque 30 ans de carrière et après avoir partagé la scène avec les mecs comiques, puis avec son épouse Véronique Cloutier, Louis Morissette a choisi de faire cavalier seul sur scène. Ce premier spectacle solo lui offre l'occasion de se mettre à nu, de se dévoiler en riant de ses victoires, ses revers, ses peurs, ses défauts, ses vulnérabilités. Bref, en enlevant le vernis qu'il a longtemps appliqué sur sa personnalité, comme il l'a déjà expliqué sur les réseaux sociaux. J'arrive à une étape de ma vie où j'ai beaucoup plus envie de faire les choses pour moi, explique-t-il. Dans un élan d'authenticité, j'ai eu envie de casser l'image du gars frondeur qui n'a peur de rien, car ce n'est pas ma réalité. Ce spectacle, c'est aussi l'occasion d'examiner la course effrénée au succès. Plus jeune, je croyais que lorsque j'arriverais à 50 ans, j'atteindrais une certaine sagesse, poursuit-il. Je m'étais fixé des objectifs. Je me disais que si je réalisais telle ou telle chose, j'allais être satisfait, comblé, apaisé. Finalement, l'atteinte d'un objectif en amène un autre et au final, on ne ralentit jamais. À cette question, qu'est-ce que le succès? Il estime que chacun a sa réponse. Pour ma part, je sais que ce n'est pas relié à un compte de banque, car ultimement, ça ne m'a jamais calmé. Il reste le dépassement personnel. Je me suis rappelé ce que je voulais faire initialement et j'ai constaté que j'avais déjà coché beaucoup de cases. À partir de ce moment, j'ai décidé de faire les choses parce que j'en avais envie, avec des gens que j'aime et pour les bonnes raisons. Mais pour y parvenir, il a fallu que je m'arrête, que j'aie des soucis de santé. Quand le corps dit stop, Louis a vécu des crises aiguës de bruxisme qui ont évolué vers l'inflammation de l'ATM, articulation temporomandibulaire. Cela a mené à une forme de surdité au niveau de l'oreille gauche, dit-il. Quand ça m'est arrivé, mon médecin a suggéré que je relaxe un peu. Ça semblait être relié au stress et à des facteurs extérieurs. Je me suis donc arrêté et je me suis questionné. C'est sur cet événement que repose la jeunesse du spectacle. Sur scène, j'évoque les événements qui ont marqué ma carrière. Mais comme je le dis toujours, on peut changer les événements ou les personnes. Nous avons tous le même type de récit, c'est-à-dire des points charnières, des traumatismes, etc. Avec le temps, Louis a acquis une certaine liberté intérieure. « J'ai une grande chance, » admet-il. J'ai une liberté financière qui me permet de faire des choix. Certains me disent que s'ils pouvaient refuser certaines choses, leur vie serait plus simple. J'en suis conscient. Je ne suis pas un coach de vie et je ne dis pas aux gens comment ils devraient vivre, car chacun a sa réalité, ses enjeux. Mais au-delà de l'aspect financier, il n'en demeure pas moins qu'on peut faire les choses pour soi et ne pas vivre dans le regard des autres. J'aurais aimé faire ce cheminement plus jeune, mais j'étais trop occupé à travailler. L'histoire d'une passation. Sur tout.tv, on peut visionner les épisodes de Louis Morissette, Retour à la base, une série documentaire qui nous entraîne dans les coulisses de son spectacle, dont la première partie est assurée par son fils Justin. C'est donc aussi l'histoire d'une passation, dit le père de trois enfants âgés de 21, 19 et 14 ans. Justin apprend ce métier. J'en profite pour partager deux ou trois choses avec lui et lui éviter peut-être quelques ennuis. Je sais qu'il veut faire ce métier. Ce n'est pas le chemin que j'aurais préféré le voir prendre, mais c'est son choix. Même si je trouve ça fort plaisant de faire des spectacles avec lui, je ne veux pas que ça se vive au détriment de son parcours scolaire. Justin a du talent et la bonne attitude, mais il n'est ni le premier ni le dernier à avoir du talent. Alors nous verrons. Dans le documentaire, on constate aussi que Véro et Louis forment, encore et toujours, une équipe unie, soudée, complice. « Quelle chance d'être encore en amour avec sa femme », dit-il, enthousiaste. « Véro, c'est ma partner et ma critique numéro un. Elle ne recule devant aucune critique. J'ai besoin de ça pour avancer. Je l'admire beaucoup et je crois que c'est réciproque. C'est un élément important dans une vie de couple. » C'était Louis Morissette, « Casser l'image du gars frondeur », un texte de Michel Lemieux paru le 14 février 2024 dans le magazine Virage.
Ma canne blanche sous les roues d'un autobus. Une lettre ouverte d'Yves-Marie Lefebvre, un piéton aveugle, paru le 21 février 2024 dans La Presse. Dernièrement, j'ai profité d'une belle matinée ensoleillée d'hiver pour faire une marche de santé dans mon quartier du plateau Mont-Royal. À l'intersection du boulevard Saint-Joseph et de l'avenue Christophe-Colomb, un autobus de la STM a roulé sur ma canne blanche. Je l'ai échappé belle. Cela fait 4 ou 5 ans qu'une demande d'installation de feux sonores à cette intersection a été présenté à la ville, mais rien n'a été fait. Les feux sonores, c'est beaucoup plus qu'une question d'accessibilité. C'est une question de vie ou de mort. Mais la ville n'a toujours pas de plan d'action en matière de sécurité routière pour les piétons non-voyants. Les feux sonores sont rarement intégrés dans ces aménagements piétonniers. De nombreuses études démontrent que les feux sonores améliorent la traversée des rues pour les piétons aveugles et qu'ils augmentent l'attention de tous les usagers de la route. Ils peuvent ainsi contribuer à réduire les conflits entre piétons et véhicules, ainsi que les collisions aux intersections. Au Québec, certaines municipalités se sont engagées à rendre les espaces publics accessibles ou ont exprimé la volonté d'assumer un leadership en vue de leur sécurisation. Cependant, à ma connaissance, aucune d'entre elles n'a de plan pour sécuriser les traverses pour les piétons non-voyants. La loi suggère aux municipalités de réfléchir à l'accessibilité, mais elle ne les force pas à agir. Il n'existe aucune pénalité. Sans mesure coercitive, il est à craindre que l'accessibilité ne demeure qu'une noble aspiration. Ailleurs, au Canada, plusieurs villes canadiennes, dont Winnipeg et Sault-Sainte-Marie, se démarquent en installant des signaux piétonniers accessibles à tous les feux de circulation. En 2019, à Toronto, 33 % des intersections étaient équipées d'un signal sonore. Quant à la ville d'Ottawa, elle dispose actuellement de 941 feux sonores. À maintes reprises, Montréal s'est engagé en faveur de l'accessibilité universelle. En janvier 2022, il n'y avait pourtant que 281 signaux sonores sur ces 2344 feux, soit à peine 12 %. En 1990, les États-Unis devenaient les pionniers de l'accessibilité en adoptant l'Americans with Disabilities Act, ADA. De grandes villes comme New York et Chicago ont récemment été sanctionnées parce qu'elle n'avait pas fourni aux personnes aveugles et malvoyantes un accès significatif au réseau piétonnier en violation de cette loi phare. Les tribunaux ont reconnu que le manque de signaux sonores était discriminatoire. En conséquence, ils ont ordonné d'en installer à chaque intersection présentant des problématiques de sécurité et d'accessibilité pour ces personnes. De plus, le tribunal fédéral du district de New York a établi une nouvelle norme en matière d'accès significatif selon laquelle il faut qu'au moins 70 % des intersections signalées de la ville soient équipées de signaux piétons accessibles. Il a été démontré au tribunal que si des systèmes de signalisation piétonne accessibles ne sont pas installés sur l'ensemble du territoire de la ville, les piétons aveugles continueront d'être gênés dans leurs déplacements sur le réseau piétonnier. En deçà de ce seuil minimal, ces intersections sont susceptibles de continuer à mettre en danger et à discriminer les personnes aveugles et malvoyantes. Appliquer une décision qui ordonne une réparation d'une telle ampleur et oblige la ville à équiper toutes les intersections d'un signal piéton accessible n'est pas une mince affaire. Mais le tribunal soutient que cette mesure corrective est à la hauteur de la violation, commise à l'échelle de la ville et dans la plus grande ville du pays. Elle est donc conforme à l'ADA et au Rehabilitation Act en ce qu'elle est adaptée à la nature et à l'étendue de la violation. Nous, piétons aveugles et malvoyants de Montréal, subissons une discrimination systémique en raison du manque de signalisation piétonne accessible. Sans compter le confinement forcé et l'exclusion sociale que cette situation entraîne. Étant donné le grand nombre de rues et d'artères commerciales dépourvues de feux sonores, les délais d'installation excessifs et le danger que le manque de signalisation nous fait courir, devrons-nous nous résoudre à intenter une action collective contre la ville pour que notre sécurité devienne enfin une priorité? C'était ma canne blanche sous les roues d'un autobus. Une lettre ouverte d'Yves-Marie Lefebvre, un piéton aveugle, paru le 21 février 2024 dans La Presse.
Des arbres centenaires abattus sur un site protégé à Saint-André-de-Kamouraska. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 15 février 2024 dans Le Devoir. Saint-André-de-Kamouraska a coupé en vrac, sans la moindre autorisation, les arbres d'un cimetière qui est partie prenante d'un site protégé situé au cœur de ce vieux village du 18e siècle. Depuis cette coupe intempestive, le paysage qui en résulte n'a pas cessé de susciter des discussions dans la région. C'est que le règlement de cette municipalité plantée devant le fleuve Saint-Laurent prévoit en toutes lettres le maintien des arbres existants du site patrimonial. Ce n'est pas la première fois que ces arbres sont coupés sans aucun ménagement sur ce site en principe protégé. Cette fois, une nacelle spécialement apprêtée a été utilisée pour rabattre au sol des érables centenaires. Ce sont des moignons d'arbres qui pointent désormais vers le ciel de l'hiver. On se demande pourquoi ça intéresse tant les autres paroisses, a affirmé au Devoir la directrice générale de la municipalité, Mme Nathalie Blais. Faut avancer, arrêtons d'en parler et passons à autre chose. Elle a renvoyé le Devoir au maire de ce village d'un peu moins de 700 habitants, M. Gervais Daris. Pas la première fois. Il s'est déjà produit ce genre de coupe sur ce site protégé, indique d'emblée le maire au Devoir. Selon lui, les arbres n'ont pas été coupés, mais bien taillés. Ce n'est pas la première fois que ces arbres sont taillés comme ça. On m'a dit que c'est comme ça qu'on taille, et on m'a dit que c'est comme ça que ça repousse. Le maire affirme que ces arbres centenaires vont ressusciter sous le soleil du printemps. Des souches laissées entre les tombes devraient renaître des branches, croit-il. Je ne serais pas surpris que des branches repoussent au printemps, avance Gervais Daris. J'ai confiance qu'il va sortir des branches et que ça ne les fera pas mourir. » Selon le maire, une coupe semblable de ces mêmes arbres avait été faite il y a 30 ou 40 ans. « Les arbres avaient bien résisté à l'opération », assure-t-il. Un autre son de cloche. À la fabrique de la paroisse, c'est Pierre Lebel qui était responsable, en novembre dernier, de la coupe de ces arbres. Il donne un autre son de cloche que celui du maire. « Les troncs qui sont là, va falloir les enlever. Ces arbres ne repousseront donc pas, comme le maire le prétend ?»« Non, non. Les troncs qui sont là, ça va tout disparaître. On va replanter de nouveaux arbres. C'est ça qu'on voulait faire. Pourquoi ? Il y a du monde qui trouvait que des branches pouvaient être dangereuses, puis ça a été coupé, ça a été fait, c'est tout. » Il dit attendre les conseils de la ville pour savoir ce qui sera replanté et de quelle manière. Peut-on se soustraire aussi facilement à la loi de l'État en matière de protection du patrimoine commun ? Ce n'est pas la première fois que des travaux d'émondage radicaux sont réalisés sans la moindre autorisation à Saint-André-de-Kamouraska. Une résolution adoptée en décembre par la municipalité le constate, d'ailleurs. Le maire l'admet de bon gré. Ça s'est produit pour autre chose. Oui, pour un bâtiment, entre autres. Cependant, la municipalité avoue n'avoir jamais cru bon réagir avant. C'est la première fois qu'on les avertit. Sans pour autant que cela change quelque chose. À quoi sert en ce cas la loi? Le maire demeure sans voix. Une résidente de Saint-André-de-Kamouraska qui souhaite préserver son identité indique au Devoir qu'il est quasi impossible de faire appliquer la loi sur le patrimoine québécois depuis une instance municipale pareille. Malgré les règlements ou la structure pour préserver le patrimoine, s'il n'y a pas de redevabilité, de démocratie vigoureuse et de médias locaux, ça ne sert pas à grand-chose. Tout se passe au ronron des scies mécaniques. Aucune autorisation. M. Lebel, le président de la fabrique de la paroisse, confirme au Devoir que plusieurs travaux ont été faits par le passé sur le site patrimonial sans la moindre autorisation. On ne le savait pas. Personne ne nous l'a jamais dit. Une remise ancienne a subi le même traitement, déménagée puis tirée par un tracteur. Ils ont mis ça sur des lisses et ils l'ont tirée. On l'a déménagée à l'ouest. Le petit garage, il nuisait. Des poursuites seront-elles intentées contre la fabrique comme la loi l'autorise? Non, assure le maire. La loi nous permettrait de poursuivre, mais notre intention est de travailler en collaboration. Tout le monde se connaît dans ce petit village, ajoute le maire. Les liens sont tissés serrés. Ce sont tous des bénévoles qui font leur possible, dit-il pour absoudre, sans pour autant approuver, le travail des émondeurs amateurs qui ont ravagé le couvert boisé du cimetière. Le maire insiste. La paroisse a voulu bien faire. Des branches menaçaient de tomber et de briser des monuments. Fallait-il pour autant ramener au sol tous ces arbres centenaires, tout en profitant de l'opération pour émonder aussi de grands conifères? J'ai trouvé que c'était en effet spécial de tailler aussi des épinettes. Le maire Gervais Daris est à la tête de sa municipalité depuis 14 ans. Son village fait partie d'un circuit touristique qu'empruntent les amoureux de la région de Kamouraska. C'était « Des arbres centenaires abattus sur un site protégé à Saint-André-de-Kamouraska », un texte de Jean-François Nadeau paru le 15 février 2024 dans Le Devoir.
Ouverture d'une maison intelligente, un grand jour pour nos petits rois. Un texte de Caroline Touzin paru le 20 février 2024 dans La Presse. C'est le rêve de tous les parents d'un enfant différent. Ce qu'il faut savoir. La présidente de la Fondation des Petits Rois, Vania Aguillard, a inauguré le 19 février 2024 une maison intelligente à Montréal qui hébergera 8 jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Ce projet a bien failli ne jamais voir le jour en raison d'une hausse des coûts de construction. Un déluge de dons de particuliers et d'entreprises, ainsi qu'une contribution majeure du gouvernement du Québec, lui ont permis de boucler le budget. Dorea Atif n'en revient pas de sa chance. Sa fille Claudine, qui vit avec une déficience intellectuelle modérée, part vivre en colocation avec des jeunes de son âge. La jeune femme de 29 ans déménagera bientôt dans une maison bien spéciale, la toute première du genre au Canada. Cette maison intelligente, située dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal, accueillera 8 jeunes avec une déficience intellectuelle de moyenne à grave, avec troubles associés et autisme. Comme tous les parents d'enfants handicapés, Mme Atif s'est longtemps demandé où sa fille allait être placée lorsqu'elle ne pourrait plus s'occuper d'elle. J'en ai visité des endroits déprimants. Moi, je cherchais un endroit où elle pourrait continuer à apprendre, à développer son autonomie. Pas un CHSLD qui ne s'adapte pas aux besoins du jeune, se souvient Dorea Atif. C'est un grand jour pour nos petits rois et nos petites reines, a lancé, à la fois émotive et fière, Vania Aguillard, idéatrice du projet et présidente de la Fondation des petits rois, à l'inauguration de la Maison intelligente lundi à Montréal. De nombreux élus des trois ordres de gouvernement, ainsi que des représentants d'entreprises et de fondations qui ont financé le projet, étaient présents pour l'occasion. La détermination d'une mère. Ce projet a bien failli ne jamais voir le jour, comme l'a raconté la presse il y a un peu plus d'un an. Sauf que Vania, elle-même maman d'un petit roi, Henri-Louis, 28 ans, ne baisse jamais les bras. D'un projet évalué à 3 millions de dollars au départ, il est passé de 6,7 millions de dollars. Somme que l'ex-mannequin international a réussi à amasser en persuadant les élus des trois ordres de gouvernement ainsi que près d'une trentaine d'entreprises privées et de fondations de délier les cordons de leur bourse. Preuve de sa ténacité, tout le monde à l'Assemblée nationale connaît Mme Aguillard, a lancé à la blague la ministre responsable de l'Habitation du Québec, France-Hélène Duranceau, présente à la conférence de presse. Puis, les yeux de la ministre sont devenus humides, en même temps que ceux de nombreuses personnes dans la salle. Ne jamais sous-estimer la détermination d'une mère. La ministre de l'Habitation, ainsi que son collègue délégué aux services sociaux, Lionel Carman, aimerait voir ce modèle d'hébergement adapté être reproduit ailleurs au Québec. Car les besoins en hébergement adapté sont criants. Au Québec, à l'heure actuelle, ce sont 2215 adultes vivant avec une déficience intellectuelle, une déficience physique ou un trouble du spectre de l'autisme qui sont en attente d'une place d'hébergement adapté, selon des chiffres provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux. La presse a révélé ces derniers mois l'histoire d'un jeune adulte vivant avec une déficience intellectuelle hébergé dans un hôpital psychiatrique, faute de mieux. Ainsi que celle des foyers pour adultes avec une déficience intellectuelle qui menace de fermer, faute d'un financement adéquat. Il y a des enfants qui peuvent être sur la liste d'attente pendant 20 ans, alors que leurs parents vieillissent, a expliqué Mme Aguillard, déterminée à poursuivre son combat pour les familles d'enfants handicapés. Le ministre Lionel Carman a rappelé qu'on avait eu plutôt tendance au Québec, dans le passé, à envoyer en institution les gens vivant avec une déficience modérée à grave. Comme ministre responsable des services sociaux, mais aussi comme neurologue, il s'est dit très intéressé par le modèle de la maison intelligente. Mme Duranceau, elle, a vanté ce projet financé grâce à un partenariat public-privé qui ne rentrait pas dans les programmes existants. Il a fallu un décret pour débloquer les 2 millions de dollars provenant du gouvernement du Québec, a-t-elle expliqué. C'est avec une vision comme celle-là qu'on fait avancer les choses, a ajouté son collègue aux services sociaux. Aux yeux de Benoît Doret, responsable de l'habitation au comité exécutif de la mairesse Valérie Plante, quand il y a assez de volonté politique, on parvient à trouver le financement nécessaire à un projet immobilier qui ne rentre pas dans les petites cases. laboratoire vivant. Dès 2017, Vania Aguiar s'est mise à travailler sur l'idée de la maison intelligente avec le chercheur au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Dany Lucier-Desrochers. Avec son équipe de recherche, ce dernier a élaboré un plan afin que les jeunes puissent vivre dans une maison connectée qui offre une technologie visant à les stimuler tout en facilitant leur quotidien. Maintenant que la maison est devenue réalité, elle leur servira de laboratoire vivant. La maison est dotée de miroirs intelligents et d'écrans d'apprentissage à la fine pointe de la technologie qui explique aux jeunes les étapes pour s'habiller ou se brosser les dents, faire une recette ou encore leur lavage, par exemple. Il y a aussi une salle multisensorielle qui permet d'éveiller leurs sens, de leur offrir un sentiment d'apaisement et de favoriser la concentration. La maison sera aussi connectée avec les différents intervenants cliniques, avec les familles et avec la communauté grâce à d'autres outils technologiques. Les jeunes adultes pourront participer à une tonne d'ateliers: jardinage, cuisine, danse-thérapie avec les grands ballets canadiens, boxe, etc., en plus de faire du bénévolat dans le quartier, comme à l'Institut de gériatrie de Montréal. Tout a été pensé pour maximiser leur bien-être, dit Vania Aguiar. Claudine et ses futurs colocs, dont Henri-Louis, vont y emménager dans les prochaines semaines. Avez-vous vu comment la maison est magnifique, lumineuse? Demande Madame Atif, la maman de Claudine, à la presse, sur le ton de celle qui vient de gagner à la loterie. Depuis la naissance de sa fille handicapée, la maman se fait répéter: Madame, il y a une liste d'attente pour ça. On a fait tout notre possible sans l'aide de personne, résume-t-elle. À la veille de déménager dans sa maison, Claudine lui a lancé, sur d'elle, « Maman, ça va marcher! » Voir son enfant handicapé aspirer à l'autonomie, comme les autres filles de son âge, c'est encore mieux que de gagner à la loterie, en fait. C'était « Ouverture d'une maison intelligente, un grand jour pour nos petits rois », un texte de Caroline Touzin, paru le 20 février 2024 dans La Presse.